BAC FM, il est 18h30 et c'est un nouveau numéro de Job, portrait d'artisan que je vous propose. Je reçois aujourd'hui une jeune femme, elle s'appelle Auréline Callot et elle est vitrailliste. Bonjour Auréline.
Bonjour.
Vous êtes vitrailliste.
Oui, c'est ça.
Vous faites partie, on le disait tout à l'heure hors antenne, des 4-5 vitraillistes dans la Nièvre.
Oui, je crois qu'il y a 4 ateliers à peine. Oui, on n'est pas beaucoup.
En indépendant,
dans
eux
aussi. En indépendant, oui, tout à fait.
Alors c'est une profession, c'est un métier de la tradition, fabrication d'exception. C'est comme ça que c'est nommé, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors déjà, tradition, parce que c'est un métier en termes techniques qui n'a pas... Enfin, bien sûr, il y a eu de l'évolution, mais on travaille quand même... avec des techniques qu'on pouvait déjà retrouver il y a plusieurs siècles. Aussi, c'est un métier qui date, on a retrouvé le vitrail, le plus vieux qu'on a retrouvé en place date du Xe siècle, c'est le Christ de Wissembourg. Donc voilà, c'est déjà un métier qui est quand même assez vieux. Et on perpétue cette tradition de la transmission de la technique depuis ces siècles-là. Voilà. Et d'exception parce que... Parce que c'est un métier de l'artisanat d'art et par définition, c'est un métier d'exception.
Il y a un certain devoir de mémoire aussi à travers ce métier, évidemment.
Oui, surtout dans la restauration. Dans la restauration, on ne fait pas n'importe quoi,
ouais.
Il y a des codes à respecter.
Il y a une ligne conductrice
à
avoir.
Exactement, oui, tout à fait. L'objectif est de préserver notre patrimoine. Il faut savoir qu'en France, on a le plus grand patrimoine de vitraux en termes de superficie. On a des vitraux qui datent du XIIIe siècle, comme Notre-Dame de Chartres, qui
sont connus. Où vous avez travaillé d'ailleurs ?
Oui, j'ai travaillé sur la restauration en atelier, sous la coordination de l'atelier Muranaise et l'atelier Claire Babet.
On va revenir d'ailleurs sur cette collaboration, parce qu'il y a aussi un monument français très très important sur lequel vous avez travaillé, qui fait l'actualité régulièrement maintenant, parce qu'il est en restauration. J'en dis pas plus, on reviendra dessus tout à l'heure. Il y a un vrai lien artistique, en fait, dans votre profession.
Ah, complètement. En fait, on est un peu entre l'artisanat et l'art, et les deux à la fois. C'est assez complémentaire, oui.
Il y a un lien peut-être aussi avec une autre profession que vous avez eue il y a quelques années, on va revenir dessus. On va se concentrer évidemment sur votre profession actuelle, on va en parler plus concrètement sur ce métier dans quelques instants. Mais juste avant, on va faire un saut dans le temps. Auréline Petite, elle grandit pas très loin d'ici, je crois,
à Decize,
ouais. Voilà, c'est ça. Vaudamogne, c'est à côté ?
Vaudamogne, on est plus proche, on est entre Guérigny et puis Saint-Benin-d'Azy.
Vous n'avez pas grandi là-bas vous...
Non, pas du tout. Moi, j'ai grandi à Decize.
Vous êtes installé, en revanche, maintenant.
Oui,
là-bas.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et petite, vous étiez déjà très manuel ou pas du tout ? Est-ce que vous aviez déjà une vocation à faire quelque chose de manuel ?
Toujours. J'ai toujours été manuel et même petite. J'ai toujours voulu partir dans l'apprentissage. J'ai toujours voulu partir travailler très tôt. Et dans un métier de l'artisanat, ça a toujours été sûr et certain, depuis toute petite.
Avec un certain caractère à entreprendre certaines choses.
Oui, je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination et très bricoleuse aussi.
Mmh. Oui. Et alors quand, par exemple, on vous demandait à 8-9 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Pâtissière.
D'accord. C'était la première idée, c'était ça, pâtissière.
Oui, complètement, c'était
Donc
ça.
Vous faisiez des gâteaux.
À la maison, tout à fait.
Et pourtant, est-ce que vous aviez une profession parentale qui se réfère à ce que maintenant vous faites ou pas du tout ?
Alors, j'ai mon papa qui est carrossier et je l'ai toujours vu travailler de ses mains.
Est-ce qu'il peut y avoir un certain lien entre la carrosserie et la rénovation de vitraux ? Alors, même si ça paraît hyper éloigné comme ça, mais moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même un certain lien.
Oui, c'est possible. Je n'avais pas pensé les choses comme ça. C'était plus en termes du geste de manuel, de la précision. On retrouve la même chose que ce soit dans la carrosserie.
Et des fois dans la restauration aussi.
Et dans la restauration, exactement. Mmh. On a un geste précis, on va restaurer un objet cassé. Oui, mais c'est de toute façon, peu importe quel métier de l'artisanat, c'est de la précision, du savoir-faire. Et un geste, voilà, c'est ça, le geste précis.
Du coup, vous allez vous lancer dans la pâtisserie, la chocolaterie, je crois, plus précisément. On va revenir quand même sur cette étape de votre vie. C'est 11 ans, je crois, 11-12 ans de votre vie, la chocolaterie. Mais il y a quelque chose avant, alors, c'est ça ?
C'est-à-dire que j'ai commencé, donc moi je viens du milieu de l'apprentissage, donc j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'ai passé mon CAP pâtissier, Puis après, ça a été mon CAP chocolatier, parce qu'à l'époque, c'était avant pâtissier et après, on faisait chocolatier.
C'est une sorte de spécialité
Oui, voilà. Ouais, okay. Alors, je crois que maintenant, ça a changé. Je crois qu'on peut faire un CAP chocolatier tout de suite, il me semble. Mais moi, à mon époque, ce n'était pas le cas. Donc, CAP chocolatier. Ensuite, je suis partie à Dijon, où j'ai été salariée en tant que chocolatière. Puis, j'ai passé mon BTM chocolatier. Et voilà, donc pendant toutes ces années.
Et après, vous partez à Berlin.
Oui.
Vous lancez votre propre entreprise. 4 ans là-bas, c'est même un autre style de vie. Ça vous apprend beaucoup de choses. C'est une expérience qui vous a aussi beaucoup construite.
Ah, complètement, parce que je suis partie à Berlin, je ne parlais pas un mot d'allemand.
Mais d'ailleurs, comment on décide comme ça? On se lève un matin et on se dit, tiens, je vais aller à Berlin. Enfin, c'est un risque quand même, passer de Dijon à Berlin, il y a...
C'est un risque, oui et non, parce que dans le sens où je savais que je pouvais toujours revenir à Decize.
Oui, bien sûr.
Il n'y avait pas tant de risques que ça. Si je partais à Berlin, si ça ne se passait pas très bien, je revenais à Decize, je refaisais quelque chose. J'ai jamais eu peur de ça. Puis ça, j'ai toujours eu l'envie, petite autant qu'être artisan, c'était aussi d'aller voir ailleurs. Ça m'a toujours porté, j'ai toujours été... j'avais envie de...
Découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre.
Oui, tout à fait.
Et alors pourquoi Berlin?
Ah bah pour la scène alternative, évidemment.
D'accord.
Voilà. C'était
pour d'autres choses au-delà de votre travail aussi. Ouais, bien sûr.
Non, c'était plutôt pour la vie berlinoise, comme on peut l'imaginer. Ouais.
Bien sûr. C'est quelque chose que maintenant vous pourriez refaire, ça, partir à l'étranger, installer l'atelier que vous avez, qu'on va évoquer bien sûr, à l'heure actuelle, l'installer peut-être ailleurs, le déplacer.
Alors, pas tout de suite, parce que comme je viens seulement de m'installer et que je suis pour l'instant dans l'objectif de me faire connaître... et d'avoir mon atelier pour faire mes créations, pas tout de suite.
Oui, ça fait à peine 2 ans que vous êtes installé maintenant, donc c'est encore récent.
Je suis vraiment au tout début, donc...
Mais ça reste dans un coin de la tête.
Non, je pense que là, pour l'instant... Non, je reste... je reste dans mon département natal, c'est bon.
On reste où on est.
Ouais, c'est ça.
Et les chocolats, ils sont restés quand même un petit peu dans un coin de votre tête? Vous continuez d'en faire un peu ou pas?
Alors, j'ai tout ce qu'il me faut parce qu'on m'a offert tout ce qu'il fallait pour en faire. Et pour l'instant, j'ai pas encore. Non, j'ai pas encore refait de
chocolat. J'aurais su que vous faisiez ça, je vous aurais demandé d'en amener. De bon matin, ça aurait été.
Mes collègues me disent la même chose.
Alors, du coup, on va lâcher ce côté maintenant chocolaterie parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est ça, c'est le vitrail, les vitraux, votre profession vitrailliste. Comment elle vous vient d'ailleurs, cette envie de devenir vitrailliste?
Alors, ça vient de... Il faut quand même que je parle de Berlin, parce que ça vient de là. Quand j'ai décidé de quitter Berlin, parce que tout s'était pas passé comme j'avais prévu, planifié mon programme, j'ai décidé de rentrer en France. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas changer de profession et intégrer une école d'art? Parce que c'est aussi quelque chose qui m'avait toujours passionnée.
On était en quelle année à ce moment-là?
Là, on était en 2018.
D'accord.
Enfin, j'ai intégré l'école en 2018, donc la réflexion était en 2017. J'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait en école d'art qui formait pour être artisan d'art. Donc j'ai regardé un peu tout et j'ai découvert donc l'ENSAMA, l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris.
Oui.
Et il y avait plein de métiers d'art, il y avait de la fresque, mosaïque, plein d'autres choses, et le vitrail. Et j'ai choisi le vitrail par opposition au chocolat, justement. Parce que on est vraiment dans un matériau qui est à l'opposition de... Ça n'a rien à voir avec le chocolat.
Qui n'est pas souple, comme on peut travailler le chocolat, qui ne se travaille pas avec les mêmes températures aussi, j'imagine.
Exactement, c'est vraiment... Et puis qui est transparent, du coup, le verre, voilà. Donc j'ai choisi au départ le vitrail comme ça. Ce n'est pas venu particulièrement d'un coup de foudre ou une révélation. Ça, c'est plus je le pratique et plus j'aime ce métier et plus je le découvre et plus je me rends compte qu'en fait, il me correspond parfaitement.
Vous aviez une certaine sensibilité déjà aux vitraux quand vous partiez, je ne sais pas, en vacances avec vos parents quand vous étiez plus jeune, peut-être maintenant encore, enfin bref. Mais quand vous partiez en vacances et que vous alliez dans les lieux historiques où on pouvait retrouver des vitraux, est-ce que vous aviez cette sensibilité de les regarder et de vous questionner dessus?
Eh bien, pas tellement, non. J'étais plus... Enfin, je regardais beaucoup plus la taille de pierre et les fresques et pas tant le vitrail. Ça vraiment, c'est une découverte assez récente finalement.
D'accord.
Oui, donc c'est très bien. C'est très très bien.
Oui, bien sûr.
Parce que alors là, je suis comme une enfant, quoi. Je découvre cette profession de jour en jour.
Alors, vous intégrez l'école en 2018. Comment elle se passe, cette école, sur combien de temps déjà ?
3 ans.
3 ans.
C'est une licence des métiers d'art. D'accord. Avec une spécialité, donc la spécialité vitrail pour moi. Pardon. Donc, c'est 3 ans où on a un parcours... Enfin, on apprend l'histoire de l'art. On a beaucoup de dessins d'art appliqué, d'art plastique. On a aussi des matières physiques, physique, chimie, français. Et on a aussi des heures d'atelier. Donc là, on a des professionnels, ce sont des vitraillistes qui ont leur entreprise, qui nous enseignent le métier.
C'est aussi une bonne manière de se faire un carnet d'adresse et de commencer déjà aussi à intégrer certaines entreprises.
Complètement, c'est ça.
Parce qu'il y a beaucoup de stages, j'imagine.
Il y a beaucoup de stages, oui. Bah, on ne trouve jamais assez, évidemment, mais bon. oui, il y a beaucoup de stages et c'est là où, en fait, j'ai rencontré... Enfin, j'étais stagiaire dans les ateliers avec qui je travaille maintenant.
D'accord.
Une fois diplômée.
D'accord. Donc ça vous a permis, pour le coup, de vous faire un beau carnet d'adresses.
C'est ça,
ouais. Quand vous revenez de Berlin, vous prenez cette décision de vous lancer dans les études de vitrailliste.
Oui.
Comment réagissent vos proches ? Est-ce qu'ils sont là à se dire, elle est complètement folle ? Ou plutôt à se dire, bah, vas-y, fonce et t'as raison, quoi.
Oui, plutôt vas-y, fonce et t'as raison.
Ouais.
T'as toujours voulu... Enfin,
parce que c'est risqué, quand même, de se relancer à ce moment-là. Alors, même si ça a été une mode quelques années après, parce que le Covid a un petit peu impulsé aussi ce changement de profession pour certains...
Oui, moi c'était
2018-2019, ouais, c'était avant. Il y avait un certain risque quand même. Vous en étiez consciente de ça ou pas ?
Oui, mais c'est pas le genre de choses qui, qui me ralentit. Non, si j'ai envie, je me donne ce qu'il faut pour y arriver. Et,
ouais.
Et généralement, je lâche pas. Si je me donne un objectif, j'y vais vraiment. Donc je sais que j'allais pas le faire à moitié et que j'allais partir avec cette licence. Ça, c'était l'objectif. Par contre, ce qui a été dur, c'était de retourner sur les bancs de l'école.
Ouais.
Parce que là, ça a été...
Et que vous aviez quitté relativement tôt,
exactement.
À 16 ans. À 16 ans, vous alliez plus qu'une fois dans la... une semaine par mois, je crois.
Oui, c'est ça,
oui,
exactement.
Donc forcément, c'était très éloigné de vous. Maintenant, vous y étiez presque beaucoup plus qu'avant, en fait.
Oui, bah oui, complètement. Ah oui, tout à fait. Oui, puis alors moi, l'école, c'était pas mon... voilà, c'est pas l'endroit dans lequel j'ai vécu mes meilleures années. C'est... Donc, retourner à l'école, c'est ça qui a été le plus stressant.
Mais votre objectif, il est atteint, parce que vous sortez des études avec donc une licence des métiers d'art et du design, spécialité évidemment vitrail, mention excellence professionnelle. C'est le plus haut possible ?
Oui, c'est ça.
Mais le vitrail, c'est pas l'unique domaine. Vous allez aussi vous spécialiser, vous interroger, du moins, à l'argenture.
Alors, il n'y a pas que l'argenture. Il y a donc le vitrail, c'est la spécialité que j'ai apprise. Enfin, c'est le métier que j'ai appris. Et sur le vitrail, je travaille plusieurs techniques, dont l'argenture que j'ai appris tout récemment, le tirage photographique et la gravure.
D'accord.
Sur verre. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui différencie tout ça concrètement pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas du tout, en fait, ça ?
Donc, par exemple, la gravure, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais le travailler au sablage. Le principe de la gravure au sablage, c'est de rayer le verre. En rayant le verre, on va lui donner un motif qui va, en fait, creuser le verre et donner du relief.
D'accord.
Ça, c'est du sablage. Ensuite, on a donc le tirage photographique sur verre, comme on peut imaginer le tirage photographique dans une chambre noire sur du verre. Et puis, c'était quoi ? Et l'argenture ? L'argenture, si vous voulez, c'est du miroir.
D'accord,
pour faire très simple.
D'accord,
voilà, c'est ça.
Ok, oui, ça.
Trois techniques complètement différentes, mais qui sont applicables sur le verre.
Et ces trois techniques-là peuvent s'appliquer en même temps sur un seul vitrail ou pas ?
Ah oui.
Oui ?
Oui, oui. Avec
ça m'a l'air compliqué quand même.
Parce que j'étais en train d'imaginer de le faire et puis comment je m'y prenais, mais oui, c'est tout à fait, c'est possible. Et du coup, je suis en train de travailler dessus pour sur un projet là actuellement, donc où il y aura les trois.
Mais toutes ces spécialités là, elles vous ont permis aussi de construire votre patte un petit peu.
Ouais, oui, bah oui, parce que ça devient mes spécialités. Après, je ne suis pas la seule à le faire, mais moi, personnellement, oui, c'est trois techniques qu'on voit souvent dans mes réalisations. Ouais.
Alors, on va revenir à vos débuts professionnels à Paris, avec l'atelier, par exemple, Muranaise.
Ouais.
Vous travaillez encore avec cet atelier, c'est ça ?
Mais j'y vais, là, dans quelques heures.
Ah, bah voilà.
Je prends le train et je pars sur un chantier avec elle, voilà. Ouais.
Je ne vais pas vous retenir très très longtemps.
Pas
alors,
souci.
Pas que vous loupez le train. Donc vous allez travailler là-bas sur un monument emblématique français. Alors deux monuments emblématiques français,
ouais.
Parce que il y a bien sûr Notre-Dame de Chartres qu'on a
ouais.
évoqué, et il y en a un autre qui est connu maintenant pour beaucoup pour des raisons qui sont quand même malheureuses. C'est Notre-Dame de Paris.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
On a restauré donc alors oui donc c'était la restauration de vitraux. On a déposé, restauré en atelier et reposé les vitraux. Parce que enfin, parfois les gens me questionnent, mais est-ce que vous déposez les vitraux? Oui, ce sont les vitraillistes. On va sur site, toujours. C'est nous qui déposons, qui restaurons en atelier et on repose les vitraux.
Mmh. Des fois, c'est même vous qui les décrochez.
Ah, c'est ça. Oui, pardon,
ouais,
quand
ouais.
je dis déposer,
ouais,
c'est
sûr,
ça,
hein.
c'est décrocher. Oui, tout à fait. Oui, c'est les vitraillistes qui font ça. Ça fait partie de notre métier.
Et alors, ce projet Notre-Dame de Paris, comment ça s'est passé? En fait, c'est après l'incendie?
Oui, parce que quand Notre-Dame de Paris a pris feu, moi, j'étais encore à l'école.
Donc à Paris?
À Paris, exactement.
Peut-être même pas très loin. Ouais, vous étiez pas très loin de Notre-Dame, d'ailleurs.
Ouais. De le 15e, hein,
ouais.
quand même, ça fait...
Il y a un petit bout quand même, ouais.
Oui, ouais.
ouais.
oui, j'étais pas très loin. Et donc en fait, l'atelier Muranez a été appelé en urgence pour la dépose des vitraux suite à l'incendie, tout de suite après. Donc elle a déposé des vitraux où elle a constitué son équipe. Donc moi, j'étais à l'école. Donc pour l'instant, c'était pas du tout en projet, évidemment.
Il ne restait rien du tout des anciens vitraux?
Il restait tout.
D'accord.
En fait, les vitraux n'ont pas été, ils n'ont pas explosé ou ils n'ont pas fondu ou non, pas du tout.
D'accord.
Ils ont été même très bien conservés. Il y a pas eu.
Ils ont juste été marqués.
Ah oui, parce qu'il y a eu de la poussière de plomb.
Ouais.
Il y a eu même des coulures de plomb. Enfin voilà, c'est l'incendie et de la poussière aussi de fumée, ce genre de choses. Donc ça a été du nettoyage, voilà. Mais ils n'ont pas été quelques pièces cassées. Mais faut pas imaginer des vitraux complètement explosés ou pas du tout. Non, non. Ils sont remis en état, c'est les vitraux de l'époque, il n'y a pas de problème.
Et donc à ce moment-là, vous êtes à l'école.
Oui.
Comment cette collaboration avec cet atelier arrive et comment votre patte, votre main, du coup, arrive sur ces vitraux-là?
Quand j'ai été diplômée, donc l'atelier Muranez cherchait une salariée et elle m'a proposé. Donc j'ai été salariée chez elle. Au moment où, en fait, il y a eu une deuxième dépose de Notre-Dame de Paris. Donc, quand elle a constitué son équipe, elle m'a intégrée dans son équipe de... Parce qu'en fait, on était plusieurs, hein. Il n'y avait pas que...
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Déjà, je vais revenir sur quelque chose de précis, parce que j'aime bien... Il y a deux personnes qui ont répondu, c'est l'atelier Muranez et l'atelier Claire Babet. Donc, ce sont nos deux coordinatrices. C'est vraiment les chefs, on va dire, du projet de dépose et restauration des vitraux. Et ces deux femmes qui ont leur atelier, qui ont donc Emma, donc l'atelier Muranez,
ouais.
a un master en conservation du patrimoine, c'est très important. Parce que moi j'ai une licence, elle a un master. Donc elle a pu répondre aussi à cette demande.
Et c'est là où la conservation du patrimoine rentre en jeu, évidemment, dans ce projet-là.
Et
très
c'est elle
important.
Qui m'a appris tous les codes et le respect et la restauration, parce qu'on ne restaure pas n'importe comment. Et donc, c'est elle qui a répondu, je m'embrouille un peu, mais... Imaginez l'atelier Muranez et l'atelier Babet. Et ensuite, elles ont constitué leur équipe. Et c'est là où j'ai été demandée, enfin, où elles ont proposé de venir. Voilà. Donc, il y avait aussi d'autres ateliers qui étaient présents.
Et alors, c'est l'expérience que vous retenez le plus de ce passage à Paris?
Ça a été un chantier exceptionnel, oui, vraiment. C'est le chantier du siècle. Et du coup, moi, j'ai mis les pieds sur l'échafaudage à la sortie de l'école, quasiment. Parce que j'étais diplômée en 2021. Et
quand on pose les pieds d'autant plus sur un monument comme celui-là, c'est impressionnant. Qu'on soit proche ou éloigné de l'histoire de ce monument-là et de ce qui a pu arriver, il y a quand même une certaine émotion, j'imagine.
Moi, c'est époustouflant. Oui, non, mais bien sûr, j'étais émue et puis... On se sent vraiment microscopique, c'est impressionnant. Mais Notre-Dame de Paris, c'est monumental. Et puis il faut voir aussi, il y avait ce qui est impressionnant, c'était tout le système d'échafaudage, tout ce qui était aussi mis autour, qui était plus qu'impressionnant.
Aussi, bien sûr, toute la coordination autour de ça.
Tout à fait.
Il y a quelque chose que j'aimerais évoquer, parce que je crois que ça arrive à ce moment-là, dans la restauration des vitraux de Notre-Dame, c'est Danse avec les ombres.
Ouais.
Parce que ça va être important pour la suite de cet entretien et pour la suite des échéances qu'on doit évoquer. Danse avec les ombres, c'est un projet, une création propre à vous, que vous avez commencé à faire à l'école, en fait, c'est ça ?
C'est ça, en fait, c'est mon diplôme.
D'accord.
Donc,
comme un mémoire, par exemple, pour certaines études, là, c'était votre mémoire, entre guillemets.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le sujet qu'on présente pour le diplôme.
D'accord.
Donc, c'est avec ce projet que j'ai aussi eu l'excellence professionnelle dont on a parlé tout à l'heure.
Et un autre concours aussi au Luxembourg, je crois.
Le Luxembourg Art Prize.
Ouais,
alors là, c'était le prix du mérite.
C'est ça. On va voir ça tout à l'heure. Mais il y a quand même, un prix, le prix du mérite.
Oui, il y a quand même, surtout qu'ils ne le distribuent pas à tout le monde.
Donc, voilà, quand même. Il ne faut pas se sous-estimer. Donc le passage à Paris, c'est fait. Vous avez vite envie de revenir quand même dans la région.
Ouais.
C'est un plan que vous aviez, à l'image un petit peu de Berlin. Là, vous aviez, en entrant à l'école à Paris en 2018, vous aviez ce plan quand même d'installer un jour votre atelier dans la Nièvre, dans la
de
région.
De revenir, oui. Alors, je n'avais pas tellement de dates, je ne savais pas. Si j'avais des propositions professionnelles sur Paris, je restais sur Paris. Enfin, j'avais aucune date en tête, c'était selon comment allaient arriver les choses.
Oui, bien sûr, au feeling un petit peu.
Un peu au feeling, oui.
C'est un petit peu comme ça que vous avez construit vos différentes expériences, c'est avec un certain plan, mais en voyant aussi où le vent vous mène.
Oui, c'est ça, un peu de sensibilité de ce qui se passe autour. Et oui, c'est ça, un peu de feeling, ouais, forcément, oui. Oui, il faut savoir si les projets ne se passent pas exactement comme on l'avait pensé, il faut savoir se retourner et puis vite bifurquer. Oui.
Et vite rebondir.
Voilà, exactement.
Et alors, c'est là qu'intervient la création de Rouge Silicium ?
Oui, c'est le nom de mon atelier.
En 2022 ?
Oui.
Alors déjà, c'est quoi le rouge silicium ?
Alors, rouge, c'était par la couleur rouge du vert, que je trouve, c'est vraiment la couleur que je préfère quand on voit du rouge. Enfin bon, bien sûr, il y a plusieurs teintes de rouge, par cette couleur. Et puis, silicium, ça vient de la silice qu'il y a dans le sable et qui permet de faire du vert.
D'accord.
Tout simplement.
C'est la... La molécule
qui permet d'amener
le vert.
Voilà,
d'accord.
C'est ça, exactement.
D'accord. Et donc, cet atelier, il est créé un an après avoir été diplômé.
Oui.
Tout s'enchaîne. Est-ce que vous avez un petit peu peur d'aller trop vite ? Est-ce que vous avez une certaine appréhension ? Parce que j'imagine que c'est aussi un risque financier de créer un atelier.
Oui, surtout quand on débute comme ça. Oui, effectivement. Mais bon, après...
Il y a un gros investissement quand même.
Financier, vous voulez dire ?
Oui.
Oui, parce qu'il y a des machines.
Personnel, c'est une évidence.
Oui, bien sûr, c'est sûr. Oui, parce qu'il faut acheter des fours, enfin, des fours, non, un four, déjà, c'est suffisant, un four, la sableuse, les tables de montage, un petit peu de matériel, un peu de stock de verre, de plomb, tout ça. Donc oui, ça demande un petit budget. Mais j'ai fait un crédit et j'ai eu aussi des aides, par le Crédit Agricole.
Oui, bien sûr, pour se lancer.
Oui, exactement. Ouais.
Quel était votre projet de base le premier jour où vous avez tourné la clé de votre atelier ? Quel est toujours d'ailleurs, parce que ça fait pas très longtemps maintenant, quel est votre projet final, on va dire ?
Le projet final, je sais pas, ce serait un bon équilibre entre la création et la restauration de notre... Enfin, déjà commencer par le département, la région, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et la création, parce que j'adore ça aussi pour particuliers ou pour continuer pour des concours aussi. Et bien sûr, j'ai pas mal d'idées en tête à approfondir sur des techniques très particulières. Il y a ça. Et puis, bien sûr, l'idéal, ce serait un jour d'avoir un apprenti. Et alors là, le jour où j'ai un apprenti, ça veut dire que c'est bon, je peux transmettre ce qu'on m'a transmis.
Ouais.
Et on continue, quoi. Le chemin continue pour le vitrail. Voilà, ça, c'est
vraiment
hyper
important.
De garder
aussi cette profession vivante.
Oui, complètement. La transmettre un jour, ce sera vraiment pour moi le... C'est bon, quoi. Ça veut dire que j'ai réussi, j'ai fait ce que je devais faire.
Et c'est intéressant aussi ce que vous avez dit, les deux notions qu'il peut y avoir dans votre travail, qui est la création et la restauration.
Ouais.
Ça aussi, c'est important. On va revenir aussi sur une journée de travail type que vous pouvez faire dans cet atelier, parce que j'imagine que les journées parfois peuvent se ressembler et parfois peuvent être complètement différentes. À l'image d'aujourd'hui, vous allez aller prendre le train, par exemple. On va évoquer tout ça dans quelques instants. On va faire une petite pause musicale juste avant, le temps de respirer un petit coup et de boire un petit verre. Je vous ai demandé une musique et vous m'avez répondu.
Donc ce sera la danse macabre de Camille Saint-Saëns.
Parce que c'est en lien avec votre projet,
ça vous m'avez dit. Exactement, c'est ça. C'est la musique qui m'a portée pendant une année pour la création de Danse avec les ombres.
Et bien on en parle juste après. Vous êtes dans Job Portrait d'artisan. Aujourd'hui, je reçois Auréline Callot, elle est vitrailliste. On vient d'écouter une musique qu'elle a choisie, c'était la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Et vous m'avez répondu juste avant pourquoi cette musique, parce qu'elle vous a porté lors de vos études, de vos projets, peut-être même encore maintenant.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle vous apporte en fait cette musique ?
Elle m'a donné le rythme. Enfin, du coup, cette musique est sur le thème de la danse macabre. Et c'est le thème que moi j'ai choisi pour mon diplôme.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, parce qu'il fallait choisir un thème, bien sûr.
Okay. Exactement.
Spécifique. Oui. On va revenir évidemment sur ce projet Danse avec les ombres, qui vous a fait gagner deux prix, un prix du mérite et un prix de l'excellence, qu'on a évoqué déjà en début d'émission. On a évoqué beaucoup de choses. On a commencé par le chocolat, qui était votre première profession. Ensuite, on est allé bien sûr ce renouveau dans les études à travers le vitrail, votre participation à la rénovation de Notre-Dame de Paris, et puis vos débuts dans des ateliers à Paris, puis enfin la création de cet atelier qui s'appelle Rouge
Silicium.
Silicium, qui est finalement une molécule dans le sable qui permet d'apporter le verre, qui est votre matière première en fait.
Le verre et le plomb.
Le verre et le... Oui. Ah oui, le plomb aussi.
Oui, on travaille toujours au plomb. Donc, métier de la tradition,
ouais, bien sûr, on y revient.
Voilà, exactement.
Mais alors justement, on travaille. Alors, votre travail, votre journée type, par exemple, c'est une question que je demande à toutes les personnes que je reçois dans cette émission, que ce soit les boulangers, les avocats, les psychologues, les tatoueurs récemment.
Oui.
Comment se passe votre journée au sein de votre atelier, une journée type ?
La journée type, ça va être beaucoup d'ateliers, beaucoup d'administratifs aussi, évidemment, la recherche d'appels d'offres, répondre à des devis, du dessin.
Ça, c'est tout le côté moins manuel de la chose.
Oui, mais essentiel pour pouvoir passer au côté manuel. Oui, c'est ça. Aussi, beaucoup de dessins parce qu'il y a les maquettes à préparer pour les clients. Et ensuite, il peut y avoir, selon les projets, donc, soit de la restauration pour les vitraux, soit de la création. Donc, on peut très bien couper du verre, assembler, souder, peindre, sabler. Je sais, voilà, il y a...
La création, finalement, c'est une personne qui vient vous voir, qui vous dit, voilà, il me faudrait des vitraux pour chez moi,
oui, exactement,
par exemple.
Ouais.
Un petit peu à l'image du tatoueur, il vient avec une idée type, et après, c'est à vous de la remodeler, entre guillemets, de la redessiner.
Oui, exactement.
Est-ce que ça arrive aussi que certains clients viennent avec, en vous disant, écoute, j'ai pas d'idée, je
oui,
sais pas.
Ça arrive. Et c'est pas grave. Moi, généralement, je vais chez les gens parce que j'ai besoin de voir l'architecture, les couleurs, un peu ce qui se trouve dans leur lieu ben, pour connaître les goûts.
Ouais.
Puis on fait
voir l'environnement,
exactement,
bien sûr.
Ouais. Exactement. Et parfois, on peut partir d'une époque, parce qu'ils aiment bien les vitraux, je sais pas moi, 20e, enfin peu importe, ou d'une couleur aussi, pourquoi pas. On peut partir juste d'une petite thématique, quelque chose de rien du tout, et à partir de là, moi, je développe et je propose des maquettes différentes. Ouais. Et une est sélectionnée que je réalise après en vrai, quoi.
Alors, pour beaucoup, c'est vrai que les vitraux, ça peut paraître quelque chose de très historique, de très ancien. Vous parlez d'époque.
Oui.
Est-ce que, à l'image de la mode,
oui,
il y a des vitraux récents, par
oui,
exemple, un style de vitraux des années 2020?
Oui, oui, parce que c'est un métier aussi de l'art, un métier de l'artisanat qui évolue avec son époque, et forcément il y a l'influence de l'époque qui va avec. Donc si on regarde les vitraux du 13e et ceux du 21e, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, on est dans des courbes beaucoup, beaucoup plus simples. Oui, on n'est plus dans ces petites pièces où avant, il y avait à l'époque du 13e, même 15e encore, où c'était des petites pièces de verre. Maintenant, dans des grandes pièces de verre, c'est beaucoup plus... Il y a moins de plomb, je trouve, c'est plus aéré. Voilà, par exemple, si on voit... La peinture aussi, c'est plus du tout la même technique.
Et la représentation de ces vitraux, alors, bien sûr, essentiellement, ça a été religieux,
oui,
parce qu'on en a retrouvé dans beaucoup d'édifices religieux, mais si, par exemple, quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, chez moi, je voudrais des vitraux, et je voudrais dessus des représentations pop culture, par exemple.
C'est possible.
Il voudrait des vitraux avec Marvel, avec...
j'ai
sais
fait
pas,
un Deadpool.
Eh ben voilà, non, mais bah, je savais pas, mais voilà. Ouais,
oui,
c'est possible, en
mais
fait.
Mais bien sûr.
Parce que c'est vrai que c'est une manière, entre guillemets, aussi de dédramatiser l'image qu'on peut avoir des vitraux. J'ai pas envie de rendre les vitraux comme quelque chose de très religieux, tout ça, mais il y a cette image très historique, très religieuse de la chose. Mais voilà, c'est important de dire aussi que ça peut être quelque chose de récent et dans l'air du temps.
Complètement. C'est normal que ce soit historique et religieux parce que ça a été créé pour ça. C'était les scènes bibliques pour apprendre aux gens qui ne savaient pas lire les scènes de la Bible. Donc c'était tout à fait, c'était fait pour. Et maintenant on en est sorti. Enfin, on n'est pas obligé de.
Oui, bien sûr.
On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on veut. Évidemment, dans le. Enfin, c'est des matériaux qu'ont certaines. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais je veux dire, on peut choisir des thématiques, oui, comme vous disiez, pop culture, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, complètement.
Cette création que vous proposez, ça vous permet aussi de vous libérer et de votre création, de libérer votre création, du coup, pour le coup, un petit peu de l'aspect restauration.
Oui, complètement. Ah oui, bah oui, parce que là, après, c'est notre problème à nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact direct sur le travail d'un ancêtre.
Ouais.
C'est notre travail à nous, donc on est responsable seul de notre créativité. Et bon, s'il y a des conséquences, c'est ben, si le vitrail ne fonctionne pas très bien en termes, je sais pas moi, de couleur, d'aspect ou peu importe.
Vous pouvez le casser, recommencer.
Après, disons que c'est notre responsabilité.
Ouais, voilà.
C'est ça. Quand on restaure, c'est plus du tout les mêmes enjeux là. Absolument rien à voir. Ouais.
Et alors, question peut-être bête, mais lors d'une restauration, si vous vous plantez, qu'est-ce qui se passe?
Non, ça n'arrive pas.
Il faut
Non. Non, non, là...
Vous pouvez être puni, enfin, je sais pas.
Non, pas
parce qu'il y a quand même un... Ouais. Comme vous dites, il y a un devoir de mémoire, il y a un ancêtre derrière qui a participé à ça.
Bah, non,
il
ne
va toujours pas venir vous voir, mais bon. C'est quoi? Non, mais...
Oui, non, c'est plus pour le respect du vitrail en tant que tel,
ouais,
et la
ça,
transmission,
ouais,
et ne pas... En fait, c'est toujours compliqué, et ce qu'il y a, l'objectif, c'est de ne pas dénaturer l'objet de base, et ce que l'artisan ou l'artiste de cette époque a voulu faire ou dire, et le restituer au maximum dans ce qu'il a été.
Ça veut dire que dans 100 ans,
oui,
quand un des vitrails que vous avez restauré sera à nouveau restauré,
oui,
bon, c'est pas moi qui viendrai, qui l'interviewera sur Mac FM, mais si, admettons, il y a nos futurs...
Oui, hein, oui.
Eh bien, il dira comme vous, je ne dois pas dénaturer le travail de mon, de mon prédécesseur.
Exactement, c'est ça. Bah ouais, ouais. Si on veut garder, si on veut conserver au maximum notre histoire, l'époque et tout, oui, c'est ce qu'il faut absolument faire. Ah oui, c'est essentiel.
Vous parliez tout à l'heure que l'objectif principal, majeur de votre atelier, c'était d'avoir le bon équilibre entre restauration et création.
Oui.
Là, à l'heure actuelle, vous en êtes où à peu près ?
Eh bah, bien, à peu près comme ça. Ça va, ouais, à peu près équilibré.
Ah ouais.
Oui, alors la restauration, là, c'est tout jeune, moi, dans mon atelier.
D'accord.
Je viens d'avoir mes premiers contrats pour moi, enfin, au nom de mon atelier.
Donc, ça veut dire que la restauration, vous faites quoi concrètement à l'heure actuelle ?
Là, je vais travailler, par exemple, sur les vitraux donnés en basois.
D'accord.
Sur les futurs, voilà. Donc, ça va pas tarder de démarrer.
Ok. Souvent, c'est dans des églises ?
Oui.
Ouais.
Voilà. Oui. Par exemple, à Paris, c'est différent parce qu'il y a aussi des bâtiments haussmanniens, ce genre de choses.
Ouais,
et là,
ouais.
Bien sûr, dans ces bâtiments haussmanniens, il y a des vitraux partout, donc c'est pas forcément des églises. Moi, là, pour l'instant, ouais, c'est église que j'ai en restauration.
Et
ça pourra peut-être évoluer.
Sur la région, ce sera quand même essentiellement
Je pense que ce sera essentiellement du patrimoine
religieux
ouais,
bien sûr.
Oui. Mais après, il peut y avoir... Il y a des châteaux aussi qui peuvent avoir des vitraux.
Oui, aussi, bien sûr.
Il y a beaucoup des maisons bourgeoises où il peut y avoir aussi des
Je ne sais pas s'il y a des vitraux au Palais Ducal à Nevers.
Si.
Si, il y en a.
Oui, il y en a qui sont cassés.
Ah, allez, petit appel.
J'ai vu des lacunes.
Petit appel.
J'ai vu quelques lacunes.
Et la cathédrale à Nevers ?
Alors,
vous y avez jeté un coup d'œil ou pas ?
Oui.
Est-ce qu'on fait un contrat là-bas ?
Par exemple, la cathédrale de Nevers, d'où tout à l'heure je précisais bien que l'atelier Muranaise avait son master en conservation.
Ouais.
La cathédrale de Nevers, moi je ne pourrais pas restaurer les vitraux qui y sont, parce qu'il faut... ce sont des vitraux qui sont classés.
D'accord.
Et là, il faut avoir un master.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est encore
ah, oui.
autre chose.
Ah oui, en fait, c'est... on ne touche pas à ce qu'on veut.
Et c'est bien. C'est bien, parce qu'on ne restaure pas... Enfin, Ça demande tellement de connaissances, la restauration. C'est vraiment... c'est presque un métier à part, finalement.
D'accord.
C'est vraiment presque une discipline à part, la restauration de vitraux. Tout le monde n'est pas restaurateur. Même dans le vitrail. Il y a des vitraillistes qui sont que créateurs et d'autres qui sont presque que restaurateurs. Et donc, moi, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont performantes, qui sont spécialisées dans la conservation du patrimoine. Et quand moi, j'ai des... Quand je restaure au nom de mon atelier, je peux être guidée et aidée par des gens qui sont diplômés et qui sont spécialisés dans cette discipline.
Donc, ceux du Palais Ducal, vous avez le droit, mais pas ceux de la cathédrale de
Nevers.
Palais
Ducal, je ne sais pas du tout. Je sais pas s'ils sont... J'ai vu que c'était de la vitrerie classique, mais je ne sais pas. Ils sont peut-être quand même classés, c'est possible. Je ne sais pas du tout.
On va se renseigner.
Ouais.
on ira voir ça. On va revenir sur un projet qu'on a évoqué tout à l'heure lors de vos études, c'est Danse avec les ombres.
Ouais.
Concrètement, qu'est-ce que ça représente, ce projet ?
Ça représente le vitrail un peu en dehors des sentiers battus. Comment ? Ce diplôme, je voulais prendre le vitrail à l'inverse de tout ce qu'il est censé représenter.
Il y avait l'objectif de casser un peu les codes.
Exactement.
Est-ce que ça peut venir un petit peu de ce que vous avez pu voir aussi avec... Vous parliez de la scène berlinoise tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu un lien avec cette envie, avec ce projet et ce que vous avez pu voir là-bas.
Ouais, je sais pas. Je n'avais pas pensé à des choses comme ça. C'était peut-être plus... dans l'idée, justement, de, comme c'est de la création, de se permettre de pousser les choses assez loin, quoi. Justement, puisqu'on n'a pas ces codes de déontologie qu'on peut avoir dans la restauration ou la conservation du patrimoine, là, au moins, je peux faire ce qui me chante. Il n'y a aucune conséquence. Donc, j'ai poussé un peu le truc jusqu'au bout, puis voir aussi où étaient mes limites techniques.
Et d'ailleurs, c'est ce qui vous a permis d'avoir, donc... ce premier diplôme, enfin, c'est pas un diplôme, c'est une récompense au Luxembourg.
Oui, c'est une récompense. Ouais, c'est ça. Oui.
Le prix du mérite.
Oui, exactement. Ouais.
C'est quoi ce concours ?
Alors, c'est un énorme concours. C'est un concours mondial. Donc, il y a énormément de participants. Et j'ai voulu présenter Danse avec les ombres pour voir... Bon, je savais que je n'allais pas être finaliste, évidemment, mais je voulais voir un peu jusqu'où je pouvais aller. Et l'objectif, c'était d'avoir cette récompense, voir si mon diplôme avait été vu par le membre des jurys, parce qu'ils reçoivent énormément de candidatures. Et du coup, j'ai eu le prix du mérite.
Et qu'est-ce que ça vous permet, vous, personnellement, de participer à ces concours-là ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Ça permet de se dire, bon, je crois que c'est pas trop déconnant. Je crois que c'est un projet qui peut se développer. Ça donne un peu confiance à ce qu'on
c'est
fait.
Ça. Exactement. Ouais. En fait, c'est ça. C'est une manière d'apporter une confiance en soi qu'on n'a pas forcément via un autre œil critique.
Oui, exactement. Ouais. Ah bah ouais. Oui, c'est sûr.
Et du coup, ça nous amène à l'actualité du moment. Mmh. C'est le prix départemental des métiers d'art de la Nièvre. Votre œuvre, Danse avec les ombres, a été élue parmi deux autres participants, je crois. C'est ça. Quand on s'est appelé il y a quelques jours, vous m'avez dit, en vrai, c'est top, la Chambre des métiers et de l'Arsenal, ils font plein de trucs.
Oui.
Du coup.
Oui, complètement. Ça, et puis je trouve qu'ils ont une belle... Enfin, ils font beaucoup de choses pour montrer leurs artisans, et ils sont assez fiers des artisans nivernais. Ils se déplacent. Moi, ils sont venus me voir à l'atelier pour me remettre mon diplôme.
Et du coup, c'est vous qui avez participé à ce concours? Vous avez posé votre candidature ou c'est eux qui vous ont sélectionné?
Non, j'ai posé ma candidature et ensuite, je suis passée à l'oral. Où il y avait un oral. Je crois que... Enfin, c'était ça. Au début, on pose une candidature écrite et ensuite, on a un entretien oral.
D'accord.
Voilà. Mais je sais plus. Mais je crois que c'était eux qui m'avaient envoyé le lien pour ce concours.
Et la remise des prix s'est faite à votre atelier.
Exactement. Ouais.
C'est un joli coup de pub.
C'est un joli coup de pub, exactement. Parce que c'est le plus long, je crois, quand on commence, c'est de se faire connaître.
Ouais.
Vraiment.
C'est d'ailleurs votre objectif là pour l'instant. Vous êtes encore dans cet objectif-là de vous faire connaître, le bouche à oreille, etc.
Exactement.
Pour ensuite ne plus avoir besoin de ça pour. Avoir du travail, avoir des projets.
Ça, c'est chouette. Ouais. Oui. Et puis que les gens aient confiance en mon travail aussi. Parce que plus on est connu, ils vont pouvoir regarder ce que je fais et avoir confiance en ce que je fais aussi.
Votre actu, là, c'est quoi à l'heure actuelle?
Je suis en un gros projet pour l'exposition qu'il va y avoir au musée de Marzy.
D'accord.
Donc pour l'instant, ils ne sont pas au courant de la thématique que j'ai choisie. Mais je suis en train de préparer, j'espère que j'aurai le temps de finir. Donc il y aura une exposition au musée de Marzy. Il y aura plein d'autres verriers aussi, je ne serai pas seule. Plein de disciplines différentes dans le verre. Je suis en train de faire un vitrail aussi pour un vigneron. Il y a quoi d'autre? La restauration de Honnay-en-Bazois qui va pas tarder d'arriver. Je donne aussi des stages, des cours, donc non diplômants. C'est de l'initiation au vitrail.
Ok, ça se passe... Alors, comment? C'est quel jour?
C'est des 3 heures.
D'accord.
On apprend les bases d'un. Enfin, la base pour fabriquer un petit vitrail. Donc, les gens repartent avec leurs vitraux.
Ah oui, en plus, il y a un petit truc à côté.
Oui. En fait, ils fabriquent leur propre vitrail.
D'accord.
Donc, on apprend la coupe de verre, l'assemblage, soudure.
Et ces stages-là, comment on fait pour participer
Eh bien, il faut soit m'appeler ou soit m'écrire par mail.
D'accord.
Voilà, tout simplement. Parce que j'ai quelques dates d'enregistrer, mais généralement, c'est un peu du cas par cas avec les gens, parce que parfois, je suis en chantier, parfois, je suis sur Paris, parfois, je suis à l'atelier, ça tombe bien.
Bien sûr.
C'est un peu, j'ai pas, généralement, c'est...
Oui, il n'y a pas de jour fixe.
Non, généralement, c'est
pas récurrent.
Oui, c'est ça. C'est les samedis matins, et puis après, on voit avec les gens par rapport qui est disponible quand.
Oui, tout à fait.
Voilà.
On peut aussi vous suivre sur Internet. Vous avez un site Internet où vous racontez un petit peu votre histoire en quelques lignes, où on peut retrouver aussi des photos de ce que vous faites, etc. Et on vous retrouve sur les marchés de Noël, parce que moi, je vous avais croisé sur un marché de Noël, par exemple.
Oui, c'est ça.
C'est important aussi d'aller au-devant des gens, d'aller voir, de leur expliquer ce que vous faites.
C'est super important parce que déjà, ça permet de parler de la profession avec les gens. Et puis de voir, parce que ce que je propose sur les marchés de Noël, c'est pas forcément ce que je vais faire pour une commande chez un particulier. Parce que là, pour le marché de Noël, je vais être plutôt sur de la petite pièce. C'est pas des grands vitraux.
On est
encore sur autre chose. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'apporte aussi de la visibilité. Et les gens me disent « Ah bah ça tombe bien, parce que je voulais avoir un vitrail chez moi, mais je savais pas où, comment, enfin par qui. » Et du coup, ça... Je leur montre un peu ce qui est possible de faire, on en discute. Et puis, ça permet aussi d'avoir des contrats.
À l'avenir.
À l'avenir, exactement. Ouais.
Donc, on vous retrouve sur tout ce qui est mis en place dans la région. Donc là, maintenant, ça va être les marchés d'été. Où les artisans sont mis en avant, oui, c'est là qu'on va pouvoir vous retrouver.
Oui, les marchés médiévaux ou ce genre de choses.
Voilà, tous ces trucs-là. Et puis, on va vous retrouver aussi sur votre site internet, sur les réseaux sociaux peut-être.
Sur Instagram, ouais.
Instagram, avec beaucoup de photos, notamment ce projet qu'on a évoqué, Danse avec les ombres. Ouais. J'imagine qu'on peut le retrouver.
Oui.
Bien évidemment.
Il y a tout écrit dessus et tout le développement du projet.
Ouais. Et puis à votre atelier aussi qui s'appelle Rouge Silicium, et c'est à Vaudamogne.
Tout à fait, c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, Bac FM, tout de suite c'est le retour du son pop rock. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast dès demain sur le site bacfm.fr. Et nous on se retrouve justement demain à 10h30 pour votre rendez-vous cinéma. Je serai accompagné de Laetitia et Emmanuel dans Action à 10h30. À demain.